Bon, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Roche. Hélène Roche est directeur ou directrice ? Qu'est-ce que tu préfères ?
Directeur.
Directeur. Avec un E ?
Non, sans E. C'est un titre. C'est un titre.
Donc, elle est directeur de recherche au CNRS, elle est à l'université, alors maintenant ça s'appelle Paris-Ouest-Nanterre.
La Défense, je ne mets pas parce que c'est trop long.
Elle a dirigé cette UMR 70-55 qui s'appelle Préhistoire et Technologie pendant un certain nombre d'années. Et là, elle vient de se mettre en congé de direction.
Donc, et là, j'étais directrice.
Hélène travaille depuis un certain nombre d'années, mais pas tant que ça. Bon, tu le diras si tu veux.
Bon, ça va apparaître.
En Afrique et notamment au Kenya. Et elle est reconnue internationalement et mondialement par ses travaux, et notamment ceux qui portent sur du matériel qu'elle a trouvé elle-même avec son équipe et qui représente à l'heure actuelle parmi les plus anciens, voire les plus anciens outils lithiques taillés, connus dans le monde. Mais c'est elle qui fait le séminaire, c'est pas moi, donc je lui laisse la parole à toi, Hélène.
Merci, Michel. Bien. Alors, effectivement, on va changer de, je dirais, de matériaux, de documents, et je vais vous parler un peu de lithique, ce qui est ma spécialité, bien évidemment, mais au cours de mon travail, je m'efforce, c'est évident, de replacer tout ce que font les hominidés et les hominidés eux-mêmes dans un contexte environnemental. Mais aujourd'hui, je ne vais vous parler que vraiment de ce que ont fait certains de nos ancêtres, pas tous. Au départ, on avait mis un titre avec Michel, première production lithique au Pliopléistocène, et finalement, et j'espère que ça vous ira comme ça, parce que je pense que c'est très important et que j'avais envie de faire comme ça, j'ai un peu mis entre parenthèses, comme je l'ai fait là, le Pléistocène. En fait, je vais surtout vous parler de ce qui a été fait, de ce qui existe au Pliocène, c'est-à-dire les toutes premières industries que l'on a trouvées, alors pour l'instant, uniquement, en Afrique. Pour vous donner un petit aperçu de ce que je vais essayer de vous dire, les possibles acteurs, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que vous avez eu justement aujourd'hui précisément un cours très détaillé sur ce sujet. Les données archéologiques elles-mêmes, je ne vous parlerai pas tant du contexte parce que c'est une autre approche dont je m'occupe aussi beaucoup, mais c'est autre chose. Les hypothèses par rapport à l'apparition de ce nouveau comportement de fabrication d'outils. Et puis, une question qui se pose, évidemment, et avec laquelle on débat beaucoup avec nos collègues primatologues qui font de l'éthologie des primates, la taille de la pierre est-elle un comportement spécifiquement humain ou spécifiquement propre aux ancêtres de l'homme ? Alors, les possibles acteurs... Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain pour de multiples raisons. D'abord parce que vous en entendez parler et de façon beaucoup plus compétente que je ne pourrais le faire par Michel Brunet, par le professeur Brunet. Simplement pour placer, si vous voulez, dans le temps qui me concerne et qui nous concerne aujourd'hui par rapport à ce que je veux vous dire sur les productions lithiques, c'est que rien n'est simple non plus dans ce domaine-là. Il y a plusieurs acteurs possibles. Si on veut résumer, c'est soit les individus, je dirais, du genre homo, qui appartiennent au genre homo, mais là, les choses sont déjà très compliquées, puisqu'on a effectivement Habilis rudolfensis, et puis tout à fait en haut de la... Où est-ce que, comment il marche ? Là. Tout à fait en haut de la... De cette période de temps, Homo ergaster et Homo erectus. Pour compliquer un peu les choses, bien évidemment, les australopithèques robustes, Paranthropus ethiopicus ou Boisei, ou Robustus, mais Robustus est en Afrique du Sud, sont également présents. Alors là, les hypothèses sont multiples. Il y a présence ou absence de certains hominidés dans certaines régions, là où sont apparues les premières industries. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui reste à débattre, enfin débattu plus exactement, puisque il y a rarement association directe des restes d'hominidés avec les ensembles lithiques. Et donc... pour l'instant, il n'y a pas, je dirais, de nom placé directement sur d'auteur de ces premières industries. Je vous ai dit tout à l'heure, en Afrique, et bien évidemment, pour ce qui est du Pliocène, c'est exclusivement l'Afrique orientale dans la vallée du Rift, avec deux centres principaux. L'Afar éthiopien, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler beaucoup, notamment parce qu'il y a beaucoup de fossiles qui ont été trouvés, y compris Lucie, etc. Donc l'Afar éthiopien qui recèle, si je puis dire, qui a livré des sites archéologiques à 2,6 millions et également à 2,3 millions. Et puis l'autre grande région riche en sites, enfin riche, toutes choses égales, et je vais vous dire ce qu'il en est exactement, toutes choses égales, c'est le bassin du lac Turkana, qui lui a livré des sites à 2,3 millions uniquement. Rien de plus ancien pour l'instant. Donc en fait, si vous voulez, on a finalement très peu de sites archéologiques anciens. Je pense qu'on peut les compter, bon, peut-être un peu plus que les doigts des deux mains, mais guère plus, une douzaine tout au plus, pour ce qui est des données archéologiques pliocènes. Ce qui contraste en fait incroyablement avec le nombre de fossiles que l'on a pour cette époque, que ce soit des fossiles de Australopithèque ou des fossiles du genre Homo. Alors il y a des raisons pour ça, sans doute une insuffisance de recherche, vraisemblablement. Mais malgré tout, je pense profondément que ces sites sont rares, c'est-à-dire que le comportement de taille de la pierre à cette époque était certainement rare et peut-être pas partagé par tous les groupes d'hominidés qui circulaient, si je puis dire, à cette époque en Afrique orientale. Donc il y a une différence entre les données paléanthropologiques, dont on pense qu'on n'en a jamais assez, bien sûr, c'est ce que M. Brunet a dit tout à l'heure, le professeur Brunet a dit tout à l'heure, mais en même temps, on a encore moins de restes de leur production lithique. Je vais commencer par le plus ancien, donc la formation de Hadar dans l'Afar éthiopien. Alors là, il y a une toute petite complication, mais c'est un détail, mais je vous le dis quand même. Dans les années 70, quand on travaillait, puisque j'ai travaillé avec l'équipe de professeurs Coppens, Maurice Taïeb et John Johansson, dans les années 70, vous voyez que la date arrive, hein, ça fait longtemps, et à ce moment-là, on a fait des recherches sur tout le secteur de cette formation de Hadar, ici. Et puis, plus tard, les Éthiopiens ont délivré des concessions de recherche à des chercheurs différents dans deux zones différentes. Ce qui fait que dans les années 70, On parlait et publiait sur soit l'Afar éthiopien ou les sites de Hadar, puisque la principale rivière au-delà de la Ouache, enfin ce temps de la Ouache était le Hadar, et que dans les années 2000, enfin fin des années 90 et années 2000, d'autres sites ont été trouvés et sont publiés sous le terme de soit de Gona, quand ils ont été trouvés par les équipes qui travaillent au sud, soit de Hadar quand ils ont été trouvés par les équipes qui travaillent plus au nord. Voilà, ça c'est des problèmes de circonscription, de zone de recherche. Donc dans les années 70, et on a trouvé avec l'équipe, j'ai trouvé avec l'équipe de d'Yves Coppens. Les premiers outils datés de 2006. Alors, le problème est un peu comme les recherches, enfin les trouvailles de Manissi dont le professeur Bonnet vous a parlé tout à l'heure. C'était beaucoup trop tôt pour que on puisse reconnaître, admettre qu'on avait des industries taillées, des outils taillés si anciens. À l'époque, ce qu'on avait de plus ancien, c'était Olduvai. Et déjà, Olduvai, les plus anciens sites d'Olduvai en Tanzanie, fouillés par Marie Liquet et la famille Liquet, à 1,7 million, ça paraissait déjà totalement improbable. Ce qui fait que, je dirais, ces découvertes-là, je ne dis pas qu'elles sont passées à la trappe, mais elles n'ont pas eu le retentissement qu'elles auraient dû avoir pour l'époque, parce que c'était trop tôt. Et je veux dire, moi-même, d'autant que j'étais doctorante à l'époque et pas encore très, très... Voilà, ça a été publié malgré tout dans plusieurs publications, mais c'était un petit peu prématuré. Alors, dans la phare toujours, le travail... En plus de ça, il y a eu la conjoncture politique en Éthiopie qui était, dans les années 70, si vous vous en souvenez, était extrêmement défavorable. Et on a dû s'interrompre. D'ailleurs, on a dû interrompre le travail à Hadar pour des raisons de sécurité. Le travail a repris par la suite. Et mon collègue Sileshi Semao a retravaillé dans les mêmes endroits et puis a été travaillé dans d'autres endroits et a mis au jour un certain nombre de sites également. Ce que je voulais vous montrer là, c'est la similitude entre ce que j'avais trouvé dans les années 70 et ce qui a été trouvé un petit peu plus tard. Vous voyez, là, on est dans le domaine galet taillé, avec quelques enlèvements. Il est clair que là, ce qu'on cherchait à faire, les auteurs, les artisans du Pliocène ici, c'est d'essayer de retirer des éclats. De quelques éclats de chacun de ces pièces, de ces supports, plus visibles ici. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que si vous voyez ces petits rebroussés ici de matière, etc., c'est qu'ils n'ont pas été très... ça n'a pas été très productif. Il y a eu certainement beaucoup d'éclats cassés et peu de bons et grands éclats. Toujours dans la phare, au nord, alors cette fois-ci, d'autres collègues, dont Erela Overs, qui travaille à l'université de Jérusalem, a trouvé et fouillé plusieurs sites. Je vous en montre un ici. Il y en a un autre qui s'appelle AL894, et d'où elle a tiré. On a encore peu de détails sur l'étude. Il n'y a pas d'étude exhaustive encore, mais vous voyez que là aussi, j'ai remis cet exemple-là, c'est quasiment copie conforme, c'est-à-dire qu'en fait, les supports qu'ils ont collectés sont identiques et ce qu'ils en ont fait était à peu près identique également. La deuxième grande région, donc, c'est le bassin du lac Turkana, un peu plus au sud. Le Turkana est un lac endoréique, c'est-à-dire qui n'a pas de sortie, qui est alimenté par... c'est un bassin endoréique alimenté par deux, trois rivières, et notamment le fleuve Omo, la rivière Omo ici. Plus au sud, on ne la voit pas. Il y a deux rivières qui alimentent, la Turquelle et la Kerio, la rivière Kerio. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été pratiquées dans cette région. Ça fait, je dirais, une quarantaine d'années qu'on y travaille. Les premières recherches qui ont eu lieu se sont faites dans la formation de Chungura, et là encore, c'était une équipe du professeur menée par le professeur Coppens et des collègues américains, Clark Cowell et des géologues américains. Puis, très vite, par la suite, dans la formation de Kubifora, ces trois formations sont des formations plio-pléistocènes. La formation de Kubifora, Richard Leakey a commencé à travailler aussi dans les années 70, et le projet continue. C'est maintenant sa femme et sa fille qui le conduisent. Et enfin, la formation de Natsukui, où les recherches ont débuté plus tardivement, dans les années 80, et d'où est originaire, où a été trouvé le Turkana Boy, que vous avez vu tout à l'heure, hein, qui est donc un Homo ergaster ou erectus, je ne sais pas, et où j'ai commencé à travailler à la demande de Richard Leakey et pour les musées nationaux du Kenya à la fin des années 80, ouais, au milieu des années 80, dirons-nous. Et depuis, j'ai conduit avec mon collègue kenyan Mzalendo Kimbunja, je conduis des recherches dans cette région. En fait, je ne vous parlerai pas aujourd'hui de cette formation-là, de Kubifora, parce que je vais vous parler des industries pliocènes. Or, il y a, pour des raisons géologiques et d'érosion, un vide sédimentaire pour la fin du Pliocène, c'est-à-dire qu'entre 2, 3 et 2 millions d'années, on n'a pas de dépôt à Kubifora, ce qui fait qu'il n'y a évidemment pas de... Il n'y a évidemment pas de reste archéologique. On trouve il y a d'abondants sites, un grand nombre de sites, plus tardivement, au début du Pléistocène. Pour ce qui est des sites de l'Homo, il y a eu donc toute une période de recherche dans les années 70, et très récemment, donc j'ai oublié de le mentionner, il y a une jeune équipe française dirigée par Jean-Renaud Boissery, qui est un élève du professeur Brunet, qui a redémarré des recherches, et c'est évidemment très prometteur et très intéressant de voir une jeune équipe se lancer dans cette aventure-là. Alors, la formation de Chungura, pour ce qui est des... Alors, les nouvelles recherches viennent de commencer, donc pour l'instant, il n'y a pas de données nouvelles par rapport à l'archéologie. Mais dans les années 70, ont été trouvés un certain nombre de sites qui ont livré un matériel fait quasi exclusivement sur quartz. Le quartz est un matériau qui est difficile à tailler, et les hominidés s'en sont tirés, je dirais, comme ils ont pu, en débitant des petits blocs de quartz et obtenant des petits éclats comme ceux que vous voyez sur l'écran actuellement. C'est une chaîne opératoire très peu élaborée, très simple, et qui a donné évidemment que des petits éclats et que du petit matériel, les supports d'origine étant eux-mêmes petits. Alors, pour ce qui est du lac Turkana, donc je vais vous parler de ce qu'on a trouvé dans l'ouest Turkana. La formation sédimentaire, ces trois formations sédimentaires, Turkana, Natsukui, Omo, enfin Chungura et Kubifora, sont des formations plio-pléistocènes, hein, qui comprennent des sédiments qui vont de 4 millions à 700 000 ans environ, de 4 millions d'années à 700 000 ans environ. Pour ce qui est des recherches pour les industries lithiques, on travaille dans la période 2,5 millions 700 000. Et je conduis cette recherche dans un projet qui s'appelle West Turkana Archaeological Project, en collaboration avec le Muséum du Kenya, National Museum du Kenya, et des partenariats au ministère des Affaires étrangères et au CNRS. Alors, la formation Natsukui a une particularité, et je pense que c'est unique, d'avoir tout au long de sa séquence de 4 millions, c'est un peu flou, tout au long de la séquence de 4 millions à 700 000, d'avoir des sites archéologiques, ce qui est évidemment, d'un point de vue de l'étude de l'évolution des comportements techniques, est formidable, unique et extrêmement intéressant. Alors, on a ce que j'appelle des complexes de sites, hein, des groupes de sites. Tout ça fait partie de, notre zone d'exploration, avec des sites de la fin du Pliocène plus au sud. Il y a un léger pendage, et puis les dépôts affleurent ainsi. C'est-à-dire que plus on va vers le nord, et plus les sites sont récents. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les sites Pliocène, les sites du Pléistocène ancien, ici, et puis les sites de la fin du Pléistocène ancien et début du Pléistocène moyen. Autrement dit, vous avez ici un Oldowayen très ancien, ici de l'Oldowayen classique, si l'on peut dire, autour de 1,8 million, avec toutefois un site Acheuléen très ancien à 1,7 million. Et puis, les sites la fin du Pléistocène ancien, début du Pléistocène moyen, avec des sites Acheuléens plus classiques aussi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui uniquement de ces sites-là. Je ne parlerai même pas de Nasura, qui est un site qu'on a trouvé il y a quelques années et qui est encore en cours de fouille et donc qu'on n'a pas encore complètement étudié. Je vais vous parler des sites de Lokalelei et surtout de ce qu'on y a trouvé, parce que c'est effectivement là qu'on a, avec ces sites-là, qu'on a pu mettre en évidence ce que pouvait être autrement que des galets mal taillés, ce que pouvaient être les productions lithiques des hominidés pliocènes. Très rapidement, voilà, c'est juste sous une autre forme, sous forme de tableau, les sites oldowayens très anciens. Et puis, je n'ai pas mis là, je pourrais vous montrer aussi le tableau des sites acheuléens, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ah oui, je sais pourquoi j'ai mis cette diapo, c'est que je voulais vous montrer qu'ici, on avait trouvé très peu, hein, ce sont que des petits restes, des dents essentiellement, soit d'un homo, early homo, qu'on ne peut pas déterminer plus que ça, et à trois reprises. Donc, on a plusieurs dents d'un hominidé qui rentrerait dans la variabilité des homo habilis ou homo autre chose, Rudolfensis, peut-être, et qui sont présents donc, dans ces sites à 2,3 millions. Cela étant, ces dents que l'on a trouvées, elles sont à côté du site, elles ne sont pas directement associées aux industries lithiques, mais elles sont là malgré tout et proviennent exactement des mêmes niveaux, bien sûr. Alors, le premier site que l'on a fouillé, qui est un site qui est à 2,3 millions, accompagné, je dirais, d'une dent de early homo, d'homo ancien, a livré une industrie qui a été fouillée. Ce site a été fouillé essentiellement pour sa thèse, pour son doctorat, par mon collègue Kibunjia, mon collègue kényan. Et voilà quelques exemples de ce qu'on a pu trouver dans ce site. Alors là, on reste encore dans un schéma de débitage très simple. L'intention est à l'évidence de produire des éclats, mais là encore, il y a, je dirais, un problème, c'est-à-dire que c'est un problème de savoir-faire. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais il y a ces deux pièces, celle-ci en place et là dessinée, montrent énormément vous verrez par la suite ce qu'est, enfin je pense que vous savez ce que c'est qu'un éclat, une série d'éclats enlevés avec succès. Ça ne donne pas du tout cette impression-là. Ça, c'est taillé, bien sûr, et on en a des dizaines comme ça, mais il y a, comment dirais-je, inadéquation entre le geste de percussion, les matières premières, la force du coup. Enfin, il y a quelque chose de malhabile et d'inadapté dans la façon de procéder, dans la manière de faire. Donc ça, c'est un schéma possible. Ensuite, deuxième site, qui porte le même nom puisqu'ils sont proches, hein, et ils ont le même âge, ils sont peinés contemporains. Faut toutefois pas perdre de vue que la précision de nos datations font que quand on dit que des sites sont à peu près contemporains pour des sites de cet âge-là, on peut rester dans un delta de variation de 50 000, 100 000 ans, c'est possible. Ça fait quand même un certain nombre de générations d'hominidés. Et ça peut aussi ne pas être les mêmes. Donc, dans ce petit site d'une emprise spatiale très, très réduite, 17 mètres carrés, qu'on a donc fouillé intégralement, et qui est très bien préservé, on a mis au jour un ensemble lithique de plus de 2500 objets, et dont plus de 10% a pu être remonté, c'est-à-dire qu'on a pu reconstruire les blocs qui ont été taillés, et par conséquent, comprendre vraiment comment ils avaient été taillés et ce qui s'était passé. Donc, à dégager un schéma opératoire de taille très précis pour un certain nombre de ces ensembles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce petit site ? Il y a à peu près une petite centaine de blocs qui ont été débités sur le site, mais avec deux entités techniques différentes. C'est-à-dire, en fait, quand je dis entité technique, c'est un peu fort, c'est simplement avec visiblement deux manières de faire qui peuvent être la production de mêmes individus, vraisemblablement d'ailleurs, soit pour des buts, soit peut-être des individus avec des habiletés impliquées dans cette taille différente. Une petite partie de ces blocs sont traités selon un débitage, je dirais, très simple, expédient, et sans organisation particulière, comme un peu ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Et ça s'oppose, d'une certaine façon, à une soixantaine de blocs qui, eux, ont été débités selon des principes constants. Alors là, je vais vous montrer un exemple, enfin, la reconstruction théorique de ces principes, et puis je vous montrerai les objets vrais ensuite. Donc, ces principes constants, ils sont en même temps restent très simples, mais ils sont très bien adaptés à la production extensive, je dirais, d'éclats. Très réussi, si l'on peut dire. Donc, la toute première action, c'est de sélectionner des blocs qui ont une morphologie particulière, avec une face convexe et une face beaucoup plus plane, et surtout qui offrent un plan de frappe immédiatement et de façon très efficace, immédiatement utilisable. Pour tailler d'une manière générale, il faut avoir, pour tailler de façon conséquente et faire des séries d'éclats, il faut avoir un angle pour le plan de frappe un peu inférieur à 90 degrés, c'est l'angle idéal. Après, on peut aller en deçà ou au-delà selon ses possibilités. Or, si vous prenez un bloc arrondi, il faut à ce moment-là créer ce plan de frappe. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, surtout si la matière première est solide, très dure. Là, il y a eu à l'évidence un choix morphologique d'emblée, puisque ça s'est répété, ça se répète sur une soixantaine de blocs. Ensuite, d'exploiter cette surface plane de débitage par des enlèvements centripètes et en laissant, en ignorant, si vous voulez, la face convexe, en ne cherchant pas à la tailler. Et en pratiquant, donc là toujours on est dans le schéma théorique, mais c'est exactement ce qui s'est produit, des séries contiguës, enfin d'enlèvements contiguës, hein, un peu envahissants et plus ou moins parallèles ou subparallèles. Et en tournant tout autour du bloc. Alors ici, vous avez par exemple une première série d'enlèvements, une deuxième série ici, une troisième série ici, et ça peut continuer comme ça, vous allez le voir, jusqu'à obtention d'un certain nombre d'éclats, et en fait jusqu'à exhaustion du nucléus lui-même. Et cette façon de faire maintient la surface de plane, de débitage plane, et permet de descendre, si je puis dire, le bloc jusqu'à l'avoir épuisé et ne plus pouvoir rien en tirer. Si vous vous souvenez des images que je vous ai montrées tout à l'heure de ces blocs globuleux sur lesquels il y avait beaucoup de coups et sans doute peu de résultats, on est là dans un schéma tout à fait différent. Voilà donc les quelques, c'est juste quelques exemples, mais c'est ceux qui ont produit, enfin qui montrent le mieux le schéma opératoire. Donc avec les tailles, l'étude détaillée, ça je vous en fais grâce, mais voilà le nucléus, hein, ce qui restait ce qui reste du bloc une fois qu'il a été débité, et tout autour, enfin tout ce que vous avez là, ce sont les éclats qui ont été enlevés et que nous on a réussi à remonter, à replacer sur le nucléus original et donc à reformer d'une certaine façon le bloc. Ce nucléus-là a produit 50 éclats minimum, parce qu'il nous en manque et on ne les a pas tous, ôté avec 8 séries d'enlèvement et le tout sur la même surface de débitage. Celui-ci a produit davantage, si je puis dire, avec 73 éclats. Alors, le petit nucléus qui reste, on le voit à peine, il est là. Il est là. Et ce grand éclat a été, à l'amont, enfin, je dirais, dans une première phase de débitage, a été retiré du bloc. Il s'est cassé en deux. Mais, malgré tout, comme il avait une morphologie particulière, qui est cette morphologie dont je vous parlais, une face plane, qui était la face d'éclatement, et une face plus bombée, ils l'ont exploité, ces deux demi-éclats, ils les ont exploités comme nucléus. Et donc, au total, de ce bloc, on a réussi à reconstituer en partie, on a au moins 73 éclats. Il y a des blocs plus petits qu'on a entièrement remontés, mais qui montrent exactement le même schéma. Avec là, oui, un point important, sur celui-ci, par exemple, une petite rectification de plan de frappe. Alors, c'est important parce que ça, comment dirais-je, ça indique un petit début, un embryon de proposition. Je rectifie une anomalie qui me gêne et je vais pouvoir continuer à débiter. Donc, d'un point de vue du développement cognitif, c'est pour nous très important. Donc, une production relativement homogène d'éclats, dont une vingtaine d'entre eux sont retouchés, mais on a des centaines d'éclats, donc très peu d'éclats retouchés, mais une production relativement homogène et d'éclats, bien sûr, il y en a qui sont cassés, mais beaucoup sont entiers. Alors, quelles sont les implications, technologiques de cette façon de faire ? Pour nous, en tant que technologues et étudiants ce matériel, on voit donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'il y a eu, à l'amont de l'opération de taille elle-même, une sélection dans l'approvisionnement de matières premières et de ce qu'on a apporté sur le lieu où on a taillé. Cette sélection s'est faite par la morphologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit en apportant des blocs de petite taille, comme ceux-ci par exemple, ou de plus grande taille, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, soit en apportant des blocs qu'on a déjà fracturés en dehors du site puisqu'on n'en retrouve qu'une moitié, comme celui-ci. Ça, c'est une phase d'éclatement. Donc, ce petit ensemble, en fait, est un demi-bloc qui a été apporté comme ça sur le site et qui, donc, le fait de l'avoir coupé, enfin, taillé, percuté pour avoir deux parties, lui donne une morphologie, cette morphologie adéquate qui a toujours été recherchée et qui a été exploitée. Là encore, vous voyez toujours la face plane, les séries d'enlèvement, etc. Ensuite, il y a non seulement une sélection dans la morphologie, mais aussi dans le matériau lui-même du point de vue pétrographique. Alors ça, ça a été le travail de Sonia Armand qui a fait sa thèse là-dessus, où elle a pu mettre en évidence, en recherchant dans le paysage des sources types, enfin des sources probables et possibles par rapport au site que l'on fouillait, et de comparer, de faire des sélections, pas une sélection, mais un prélèvement, je dirais, exhaustif de matières premières, et de comparer ce qu'il y avait dans la source et ce qu'il y avait sur le site. Et là, vous voyez que la phonolite, qui est un très bon matériau volcanique pour tailler, s'il n'existe que... Ça, c'est pour Localele, hein, elle l'a fait ça pour, bien sûr, d'autres sites. Mais la phonolite, si elle n'existe qu'à 28% dans la source type, on la retrouve à 75% dans le site. Or, c'est effectivement la meilleure matière qu'on puisse trouver pour ses qualités d'aptitude à la taille qu'on puisse trouver dans cet environnement. Les basaltes sont plus nombreux, mais ils sont plus difficiles, surtout que là, ce sont des basaltes porphyriques avec beaucoup d'inclusions. On n'en retrouve que 14% dans le site. Les trachytes sont les plus abondantes, mais ce n'est pas du tout une bonne matière première. Elle est présente, mais plutôt pour du matériel de percussion, et seulement 10% dans le site. Et la rhyolite est quasiment anecdotique, sur le site. Donc voilà, il y a au moins, si vous voulez, cette anticipation. Alors, toute action idéomotrice, évidemment, implique une désanticipation, naturellement. Mais à 3 millions, enfin, à 2 millions et demi d'années, ce n'est pas si évident. Mais là, on a un exemple d'anticipation pour le choix des matières premières, des blocs, etc., avant la taille elle-même. Le schéma opératoire étant mis en œuvre, étant, comme vous l'avez vu, simple, mais extrêmement efficace. Ensuite, ce qu'on a pu remarquer également, avec les percuteurs eux-mêmes, puisqu'on a aussi des percuteurs, ce petit ensemble est très complet, c'est-à-dire qu'on a des blocs non taillés, des blocs taillés, les éclats bien sûr, donc les nucléus qui restent, et les percuteurs. Donc sur des percuteurs, qu'est-ce qu'on a constaté ? Des zones d'impact extrêmement localisées. Vous voyez là, je crois qu'il y en a une autre ici, très localisées. Ce qui veut dire qu'il y a une extrême précision, je dirais, dans le geste de percussion. Et sur les nucléus ou sur les éclats ou sur le reste du matériel, il n'y a aucune trace de coup manqué, si je puis dire, de coup raté. Ce que l'on voit très bien quand on fait des expériences avec des tailleurs débutants, parce que c'est en fait... alors, je ne vais pas vous développer ce qu'est la taille de la pierre, mais enfin, il faut comprendre que c'est une opération balistique, je dirais, et qui requiert, qui met en mouvement tout le corps, et les yeux, la main, évidemment le cerveau, mais où on a besoin d'une très grande précision. C'est-à-dire, quand le geste est lancé, il n'y a plus aucun contrôle visuel. Donc, il faut là aussi que l'œil et la vision binoculaire anticipent là où doit taper le percuteur, et il n'y a pas de remords possible. Une fois que le coup est lancé, il va frapper là où il va frapper. Et quand on débute, ben, on n'a pas forcément cette bonne perception de ce qu'il faut exact, de comment il faut faire. Et donc, on tape trop à l'intérieur, et ça fait des marques à l'intérieur sur le bloc, ou à l'extérieur, et on manque complètement son coup, et on se fait des grands bleus sur la jambe, en général. Et donc là, pas du tout, on est dans une très grande précision, donc une bonne habileté motrice. Donc, pour résumer, pour avoir, si vous voulez, une petite vue d'ensemble, ce que je voulais essayer de vous faire passer aujourd'hui, c'était d'oublier, si je puis dire, le postulat de ces premières industries avec une technique très rudimentaire de taille, de galets et autres blocs et autres pebble culture, des termes qu'on employait il y a une trentaine d'années. On n'est plus du tout dans ce postulat-là et dans ce schéma-là. On est dans quelque chose de beaucoup plus divers. Ces techniques rudimentaires, expédiantes, malhabiles existent, à l'évidence. Je vous en ai montré des exemples. Mais en même temps, on a autre chose. Et comme on a, pour l'instant, ce qui est très frustrant, c'est qu'on a très peu de données. En plus, certaines des données des sites fouillés à 2,3 millions ou à 2,6 millions ne sont pas encore publiées de façon extensive, donc on n'a pas suffisamment de comparaisons. Donc ça, c'est assez frustrant, mais ça viendra. Mais malgré tout, on reste quand même dans des schémas de taille extrêmement simples, et en dépit de leur savoir-faire, de savoir-faire qu'ils ont à cette époque-là, les hominidés et pliocènes sont encore très, je dirais, très contraints par la matière première. Enfin, par la matière d'une manière générale, par sa morphologie, bien qu'il l'ait choisi, et par les qualités pétrographiques des matériaux, etc., etc. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une perception géométrique des volumes très... Enfin, ils n'ont pas, plus exactement, de perception ou une perception géométrique des volumes très limitée. Se dégager de cette perception-là, de cette perception limitée, va prendre beaucoup de temps. Par exemple... Et là, comme on a la continuité, je dirais, dans l'Ouest Turkana, c'est extrêmement intéressant à observer. Il faut attendre 4 à 500 000 ans par rapport au plus vieux site de Turkana, mais 1 million d'années, je dirais, par rapport au plus vieux site d'Éthiopie, à 2,6 millions, il faut attendre donc 4 à 500, voire 1 million d'années, depuis les débuts de la taille de la pierre, pour acquérir cette plus grande indépendance vis-à-vis des matériaux que l'on taille. Alors, je rentre pas dans les détails, c'est un site à 1,75 million d'années, toujours donc là, on est, si vous voulez, dans une autre période de temps, bien évidemment, sur une perspective anthropologique, paléoanthropologique, vraisemblablement avec d'autres individus que ceux qui ont fait les... d'autres hominidés que ceux qui ont taillé à 2,3 millions et que ceux qui ont taillé à 2,6 millions. Et là, on rentre dans ce que Michel Brunet vous parlait tout à l'heure, dans le domaine Erectus-Ergaster-Erectus. Est-ce que ces nouvelles façons de faire, je ne veux pas vous détailler ici, on peut retourner le nucléus, on peut ouvrir d'autres plans de frappe, etc. Est-ce qu'elles coïncident, est-ce qu'elle est parfaitement coïncidente avec l'apparition de nouvelles hominidés? C'est possible, mais là, on a besoin de plus de données et de croiser davantage ce qu'on a sur le plan paléanthropologique et ce qu'on a sur le plan archéologique. Et il faut attendre encore un petit peu plus longtemps pour changer, je dirais, de concept. Alors, pourquoi ce grand mot, je dirais? Parce qu'avec les premières pièces bifaciales, on change effectivement de concept. C'est-à-dire que dans la période précédente, l'objectif, c'est à l'évidence de tirer des éclats d'un bloc de matière première. Quand on rentre dans le domaine de l'Acheuléen, qui là est balbutiant, hein, ce n'est pas un beau biface bien équilibré, bien symétrique, avec une symétrie bilatérale et bifaciale, l'objectif, ce n'est plus de tirer des éclats, mais de façonner, de donner une forme à l'objet, enfin au bloc qu'on est en train de tailler. C'est pour ça que j'appelle ça un changement de concept. Il faudra là aussi à peu près 700 000 ans pour arriver à la maîtrise de cette symétrie et de parfait, que, si je puis dire, que le savoir-faire rejoigne complètement le concept, donc ce qui est anticipé dans le vu ou dans le cerveau. Ça, c'est toute l'histoire de l'Acheuléen, et c'est une autre histoire. Et donc, pour ce qui est de l'Acheuléen, je m'en arrêterai là. Mais vous connaissez les bifaces acheuléens, et vous savez la perfection qu'ils peuvent atteindre. Là, ce site-là est un des plus vieux sites acheuléens en Afrique orientale, avec les sites d'Éthiopie de Konso Gardoula, qui sont fouillés, mais très peu publiés encore, malheureusement. Une très belle séquence aussi pour tout l'acheuléen par mon collègue Jonas Beyene. Alors, on peut se poser évidemment toutes sortes de questions par rapport à l'émergence de ce comportement. Pourquoi, comment est-il apparu et finalement est-il spécifique d'un individu, d'un groupe d'individus, d'une espèce, d'un genre? Donc la question que l'on peut se poser, c'est: est-ce que la taille des roches dures est un comportement spécifique? Là, j'en reviens un peu au débat avec mes collègues primatologues et éthologues de tout genre, si je puis dire, mais que je vais résumer en quelques phrases. La faculté de prélever dans l'environnement un matériau, quel qu'il soit, hein, de la pierre, donc minéral, végétal, branche, feuille, ou animal, un os, pour l'utiliser comme outil, est partagée par un grand nombre d'espèces. Là, je vous ai mis en exemple un chimpanzé en train de utiliser comme outil, on est bien d'accord, il y a utilisation d'outils, certainement pour casser des noix, un percuteur dans une main et une enclume. Ces deux objets sont prélevés dans la nature, instrumentalisés, si je puis dire, mais non modifiés. Là, c'est l'exemple de la loutre qui fait la même chose pour casser des coquillages. Donc, une petite enclume une pierre, quelque chose de dur, et une pierre. Et elle va placer le coquillage entre les deux et taper pour casser la coquille. La faculté, par ailleurs, de modifier, avant son utilisation comme outil, un matériau meuble, plastique flexible comme une branche, par exemple, est également partagé par un certain nombre d'espèces. Et notamment, bon, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a beaucoup, mais il est très connu, par le chimpanzé qui va prendre une branche, l'effeuiller et aller avec cette petite branche, brindille, pêcher les termites dans la termitière. Donc là, on est bien d'accord, il y a aussi, bien évidemment, anticipation, modification d'un élément et son utilisation. Mais en revanche, la capacité à modifier un matériau naturellement dur, solide et cassant, c'est-à-dire les roches dures, avec un objet intermédiaire, est unique aux primates humains et à leurs ancêtres. C'est-à-dire que, du moins dans l'état actuel de nos connaissances, dans le vivant actuellement, on n'a jamais observé un chimpanzé ou d'autres primates non humains tailler la pierre. Ils l'utilisent, certainement, ils ne la taillent pas, ils ne la modifient pas. Or, la taille de la pierre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une opération, c'est une activité idéomotrice et qui mobilise beaucoup d'éléments. Le cerveau, qui fait, il y a bien sûr interaction entre le cerveau et la main, il y a de la balistique, il y a de la physique des solides, parce que vous pouvez toujours faire éclater un caillou en 1000 morceaux en le tapant dessus très fort, mais n'importe comment, ça c'est pas difficile, mais ça vous donnera rien, ça vous donnera des éclats, enfin des fragments qui n'ont pas qui peuvent difficilement avoir une fonction sauf à faire du ballast. En revanche, si vous voulez tailler la pierre des roches dures pour en tirer des éclats qui ont des propriétés particulières, une essentiellement, alors là, il faut le faire selon des règles qui sont régies par des contraintes, la contrainte des matériaux, et je vous dis essentiellement physique des solides, pour avoir un type de fracture très particulier qu'on appelle la fracture conchoïdale et qui fait que l'éclat se détache, un morceau de matière première se détache, il est fin et il a une particularité, c'est qu'il est coupant. Donc, à la réponse, est-ce que ce comportement est unique ? Il semblerait bien que oui. Il est donc apparu en Afrique il y a à peu près 2,6 millions, peut-être avant, et vraisemblablement avant, et précédé sans doute de beaucoup de tentatives qui n'auront pas forcément donné de résultats, et dont on ne retrouvera pas les traces, malheureusement. Alors, les raisons, elles sont multiples, vraisemblablement multiples. Il n'y a pas une raison il n'y a pas une raison majeure. Il y en a, à mon avis, plusieurs. Donc, le déterminisme écologique est une chose, l'apparition de nouveaux hominidés en est une autre, l'évolution comportementale et cognitive de ces hominidés en est une troisième, le développement de la carnivorie, c'est-à-dire un changement dans la façon de se nourrir, a certainement joué un grand rôle, et qu'on peut lier. On est tenté de lier à l'apparition de ce nouveau comportement de taille de la pierre, parce que, comme je vous l'ai dit, ce nouveau comportement permet de créer et de reproduire indéfiniment, avec une faute d'orthographe, je crois, une fonction qui n'existe pas dans l'environnement, dans le monde naturel, ou très peu. C'est la fonction coupante. Donc on est effectivement tenté de lier au développement de la carnivorie le développement de la taille de la pierre. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Et l'utilisation de la pierre, par ailleurs, comme le font les chimpanzés ou les autres primates, a continué par ailleurs. On a beaucoup d'exemples de pièces qui comportent des traces de percussion, etc., etc., mais qui n'ont rien d'autre, qui ont certainement servi à la percussion. Comme les chimpanzés se servent de matériel percutant dans leur vie courante. Voilà, je crois que c'est terminé et je vous remercie de votre attention.